Ferraille.
Avant de commencer cette émission, nous voulions prévenir les plus sensibles d'entre vous. Ce numéro du Bureau des Mystères contient plusieurs enregistrements qui peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. Alors si vous avez du mal avec les sons d'exorcisme, vous risquez de passer un moment difficile. Un de nos dossiers comporte également la mort d'une personne pendant un appel au 911, considéré par certains comme authentique. Là encore, l'enregistrement peut être impressionnant, alors si vous ne le sentez pas, on ne vous en voudra pas et on se retrouvera au prochain numéro.
Trompette de l'Apocalypse, une mort en direct, l'exorcisme d'Annelise Michel, le puits vers l'enfer, ce sont nos dossiers du jour dans le Bureau des Mystères.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le Bureau des Mystères, je suis Mathias.
Et je suis Charles, et je ne sais pas si vous entendez la différence, mais... il y a une petite différence, c'est une émission un petit peu particulière, puisque nous sommes en face à face, c'est-à-dire que là, littéralement, je touche Mathias.
Et c'était très doux.
Et c'est la première fois, hein.
La toute première fois dans le Bureau des Mystères.
Qu'on enregistre en face à face, car oui, je me suis extirpé de ma campagne lyonnaise, je suis arrivé en région parisienne, puisque nous avons organisé notre premier meet-up. Organisé.
C'est pas nous qui l'avons organisé.
C'est pas vraiment nous, en fait. C'est plutôt Émile Gauthier de Distorsion qui, grâce à ses talents de businessman, a tout à fait bien géré ce meet-up dans lequel nous avons rencontré des personnes, des auditeurs, des auditrices du Bureau des Mystères.
Un hasard incroyable de Émile Gauthier qui passait à Paris en même temps que Charles ici présent.
Donc on
était obligés d'organiser quelque chose et Émile a très bien géré ça et on a pu rencontrer, je crois, une trentaine, cinquantaine de personnes ce soir-là. C'était très sympathique.
On n'a pas pu parler avec tout le monde, on est désolé.
C'est un petit peu dommage, on aurait aimé, mais bon, c'est vrai qu'on n'avait pas... On a manqué de temps, malheureusement. On a passé en tout cas un très bon moment, était ravi de vous rencontrer. Et bon, bah, c'était également l'occasion pour que Charles passe à Paris. Et voilà. On est très contents d'enregistrer ensemble aujourd'hui.
Et aujourd'hui, d'ailleurs, émission donc, qu'on enregistre, qui est un numéro spécial, un numéro un petit peu particulier, puisqu'on va vous parler aujourd'hui de son. Et pas n'importe quel son, puisqu'on va vous parler d'enregistrement étrange.
Vous avez peur déjà, je suppose. En tout cas, nous, on a eu un peu peur parfois en écoutant les extraits sonores qu'on va vous diffuser. Alors, sans plus attendre, accrochez-vous à vos écouteurs parce qu'on commence avec notre premier dossier sonore.
Les trompettes de l'Apocalypse. Un son apparemment inexpliqué se fait entendre à différents endroits du monde. Et son nom à ce son, c'est le hum. Le hum-hum, comme on dit dans d'autres endroits. Ça s'écrit H-U-M. Il n'y a pas de traduction française, mais ça s'est vu surnommer les trompettes de l'Apocalypse. Et donc, les personnes qui l'ont entendu, et qui en font parfois des enregistrements, le décrivent comme, potentiellement, un moteur de voiture diesel qui tournerait à bas régime. Sauf qu'il tournerait certes à bas régime, mais il tournerait très fort dans le ciel. Puisque, comme vous allez l'entendre, c'est un son assez impressionnant. Et ce hum, ça fait un moment que vous nous le réclamez. C'est une suggestion qui datait du début du
Je crois même du numéro 0 du Bureau des Mystères. Ça a été un des premiers sujets qui nous a été suggéré par les auditeurs.
Et c'est un truc dont on avait entendu parler, forcément, parce que on est sur YouTube, quoi.
Oui. Moi, j'en avais entendu parler pour la première fois dans Rivière à Détente, puisque Henri en avait parlé dans un épisode. Et ça nous avait... moi, en tout cas, ça m'avait un petit peu étonné.
Ouais, c'est vrai que c'est un peu étrange. Et donc, vous étiez plusieurs à nous le réclamer. Et ben vous savez quoi, maintenant, vous l'avez, puisque c'est de ceci dont je vais vous parler. Pour ce numéro spécial enregistrement, je ne pouvais pas passer à côté, puisque c'est un son qui, en plus, est presque passé au niveau de légende urbaine. Hein. Si vous allez sur YouTube et que vous regardez des vidéos, vous allez voir qu'il y a tout un folklore au niveau de ces hums. Et sa popularité a augmenté avec l'adoption large de sites de partage de vidéos, du coup, comme YouTube. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce hum ?
Thank you.
tu veux me poser la question.
C'est exactement ce que je te demande.
Qu'est-ce que c'est que ce M? C'est un espèce de vrombissement, disons, pour utiliser le mot, un vrombissement général qui s'entend la plupart du temps à des kilomètres à la ronde. Ce qui fait que vous pouvez avoir un M sur YouTube. Il y en a un qui est assez célèbre au Maroc, début de l'année 2016, janvier 2016, 4 ou 5 janvier, je crois. Et vous avez plusieurs vidéos qui datent de ces dates-là, qui enregistrent du coup le même son à différents endroits de la ville. Donc c'est un son qui est très fort, qui est très puissant, et qui peut et qui a plus souvent, alors quand il n'est pas enregistré mais que des gens l'entendent, qui peut être souvent confondu avec un problème médical qu'ont les gens qui sont les acouphènes. Il faut pas confondre hum et acouphène, c'est-à-dire que l'acouphène c'est perso, il y a personne d'autre qui l'entend, mais le son est assez similaire.
D'accord.
C'est pour ça que
j'ai jamais eu d'acouphène, heureusement.
Moi non plus, ouais, mais de ce que j'ai lu, en tout cas, c'est parfois confondu. Il y a des gens qui pensent entendre des hum, mais en fait, ils ont des acouphènes.
Petit indice, si tu mets ton micro et que ça enregistre rien,
voilà,
c'est peut-être des acouphènes.
Ouais, si t'as un micro suffisamment bon, normalement, ça le capte. Et donc, c'est un phénomène, ce hum, qui a pris de l'ampleur ces dernières années, du fait qu'aujourd'hui, on peut justement l'enregistrer assez facilement, mais pour autant, le phénomène n'est pas nouveau. Puisque les premiers hum remontent au début des années 1950, dans des zones très précises, comme Bondi en Australie, Taos aux États-Unis, Largs en Écosse.
Ouais, parce que c'est vrai que c'est vraiment un phénomène mondial, quoi. Il a été observé un petit peu partout. Quand on voit sur YouTube, il y a des vidéos de à peu près tous les continents, quoi.
Et ouais, c'est ça qui est assez étrange, c'est que c'est pas un endroit précis répété, c'est des endroits précis, c'est répété. C'est-à-dire que le hum de Taos, par exemple, on l'a entendu dans les années 50 en premier, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui revient. Donc c'est très localisé, c'est répété, et en général, à la base, alors ça c'est assez intéressant, les sons étaient repérés à cette époque-là par des personnes âgées, la plupart du temps entre 55 et 70 ans, et plutôt des femmes. Alors, je ne sais pas quelle explication il y a derrière, et seulement 2% pardon, de la population se plaignait de ce bruit, et moins de 5% pouvaient l'entendre.
Alors est-ce qu'à l'époque, on était pas justement sur 2% de la population vieux qui avait des acouphènes?
Alors,
c'est une possibilité.
C'est assez possible. Il y a aussi d'autres explications sur lesquelles je vais revenir après, mais tu soulèves un fait médical potentiel, en effet.
Alors, on parle de vieillesse et d'un petit pourcentage de la population.
Oui.
Ça ressemble un peu à des acouphènes.
T'as toute une maison de retraite qui s'est partie. Oh, on entend des bruits. Mais non, enfin, il y a un bruit similaire qui a été entendu à Rome dans les années 70. Et les Romains ont visiblement l'imagination, puisque à ce moment-là, ce n'est pas appelé hum, ça ne s'appelle pas hum, ça s'appelle ronron, comme un ronron en français.
C'est mignon, genre le ronronnement qui venait du ciel.
Ouais, c'est ça. Et c'est à la même période que les hums de Bristol ont été entendus et se sont aussi intensifiés. Mais ce ne sera que plus tard, dans les années 1990, qu'on commence à enregistrer, notamment grâce à l'amélioration de la sensibilité des capteurs que, disons, tout un chacun peut acheter, pas des capteurs sonores professionnels, qu'on va pouvoir enregistrer les premiers hums. Et aujourd'hui, donc, il y a des hums qui ont été entendus aussi, par exemple, au Canada et au Danemark, et qui ont été enregistrés. Et ça pose question, puisque quand il y a une partie de la population, même si elle est extrêmement faible, ou qu'elle touche des personnes très, très ciblées, ça a posé question. Et notamment ensuite Taos, hein, donc le hum de Taos, qui est revenu à plusieurs périodes, et qui, pendant un moment, a même été constant. Dire qu'en 91, il y a eu un hum qui aurait duré très longtemps.
Genre plusieurs jours, plusieurs semaines?
Plusieurs mois.
Ah, plusieurs mois, d'accord. Ouais. Très longtemps.
Donc là, oui, voilà, est-ce que c'est un peu difficile à...
C'est-à-dire que tous les jours, dans ta ville, t'entends...
Ouais, t'entends un espèce gros de... Truc, un truc en fond, ouais, un truc un peu bizarre.
Très agréable.
Et du coup, il y a une surveillance qui a été organisée auprès de 8000 personnes dans cette zone-là, pour essayer de voir est-ce que, enfin, qui ça touchait, est-ce que c'était des zones particulières de Taos, est-ce que c'était un quartier en particulier.
Ah oui, donc c'est un phénomène qui est vraiment ausculté, enfin qui est vérifié par les autorités.
Là, en l'occurrence, ouais, là c'était la, enfin c'est pas la première fois, mais là c'est la première fois qu'il y a une surveillance aussi grande en 91 à Taos. C'est la première fois qu'il y a une surveillance aussi grande pour essayer de déterminer qu'est-ce que c'est, pourquoi les gens l'entendent. Et c'est une surveillance qui a été faite auprès de 8000 personnes. Donc c'est pas rien, et qui a montré que le hum était entendu par 11% de la population quand même. Donc là ça
donc 11% de ces 8000 personnes.
Ouais, 11% de ces 8000 personnes. Donc on a un chiffre qui augmente. On a un chiffre qui augmente et la ville architecturalement a changé entre-temps et sera peut-être une incidence plus tard. La fréquence captée par l'oreille humaine va de 20 à 20 000 Hz. J'ai vérifié sur Wikipédia.
Est-ce que tu as vérifié les sources de Wikipédia derrière?
Ouais, je vérifie les sources de Wikipédia.
Hein, parce que petit tip, oui. Hein, on en parle, c'est le moment d'ailleurs de faire cette petite mise en garde. Si vous êtes plutôt jeune et que vous nous écoutez, que vous préparez, je ne sais pas, des TPE pour le lycée, ou que vous préparez ce genre de choses, ou même des choses pour la fac, ou voilà. Le Wikipédia n'est pas une source,
voilà,
on ne le répétera jamais assez, vous ne pouvez pas mettre source Wikipédia, je l'ai vu récemment dans un article en ligne et ça m'a ulcéré, genre un article d'un grand magazine,
ouais.
Et est marqué « selon Wikipédia », et là j'ai pété un boulard en voyant ça. Donc non, Wikipédia n'est pas une source, ce qui sont des sources, ce sont les sources de Wikipédia, et pensez toujours à aller vérifier même les sources de Wikipédia, voir qui vous parle. Ce qui est important sur Internet, c'est qui vous parle.
Mmh.
Est-ce que la personne est digne de confiance? Est-ce qu'elle a des opinions politiques très tranchées? Est-ce qu'elle est conspirationniste? Tout ça, ça va vous permettre de développer avec votre esprit critique votre appréciation des choses. Mmh. Est-ce que vous avez confiance en ce que vous dit la personne? Même ce que nous, on vous dit, ouais. Vous pouvez aller le vérifier au cas où il peut nous arriver de dire parfois des bêtises sans faire exprès.
Des approximations, ça arrive à tout le monde. Et ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'en fait, le problème de Wikipédia, c'est qu'il y a une co-énonciation, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs voix qui parlent et c'est difficile de déterminer laquelle. Et Wikipédia n'est pas un énonciateur.
Non.
Quand il y a un article, on peut le voir, il est signé, voilà. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Mais enfin bon, c'était la petite parenthèse pédagogie des recherches
voilà,
sur
attention.
Les internets. Et donc l'oreille humaine peut capter des fréquences qui vont de 20 à 20 000 Hz, donc, mais avec des petites divergences dans les sensibilités. Et il semblerait que les sons entendus soient dans des fréquences très basses, aux alentours de 50 ou 60 Hz, en tout cas pour ce qui a été entendu en Écosse. Et pour les scientifiques, il semblerait qu'ils aient besoin d'un enregistrement au micro pour qu'ils les entendent. C'est-à-dire que les scientifiques ne les entendaient pas. Ils ont besoin d'un enregistrement basse fréquence au micro pour les enregistrer. Et à partir de ça, il y a pas mal d'hypothèses qui ont émergé pour expliquer ce phénomène acoustique. Et les fréquences sur lesquelles, par exemple, échangent les sous-marins, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez dans ARP, j'avais parlé des fréquences sur lesquelles enregistraient les sous-marins, qui sont autour de 76 Hz. Et ça a été une hypothèse pendant un moment. Est-ce que c'est pas des fréquences genre que les gens entendent, captent, parce que, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais dit que les fréquences des sous-marins, c'était les fréquences à laquelle notre cerveau était sensible, c'était les fréquences à laquelle émettait ARP des ondes. Et est-ce que ce serait pas ARP? Est-ce que ce serait pas les sous-marins? Non. Donc voilà, on va balayer ça, parce que c'est un truc qu'on a vu sur YouTube, hein, au moment de faire ses recherches. Ça ne vient pas de ARP. Il y a une autre hypothèse qui a été émise, qui était celle des vagues. Alors, c'est une hypothèse que moi j'aime bien, elle est jolie. C'est d'immenses vagues au large dans l'océan, genre qui sont pas forcément, qu'on ne voit pas, hein, qui sont des immenses vagues au milieu des océans, qui feraient bouger en fait les fonds marins et qui du coup se répercuteraient à un moment donné.
Ah, ça ferait des vibrations ça et ce serait le son
qu'on
entend.
Ouais, ça ferait des vibrations éloignées des côtes. Et ça expliquerait des répercussions qu'on entendrait, puisque, par exemple, comme je le disais, la population qui l'entend depuis les années 50, 60, 70, 80, 90, la population augmente. Mmh. Ça va peut-être de pair avec l'augmentation de la quantité de bâtiments qu'il y a dans les villes. Et les répercussions...
Quand ils bougent.
Donc ça, c'est une hypothèse qui est très proche de la vérité. Il y avait une autre hypothèse, mais ça je passe dessus, qui accusait les pipelines de pétrole et les vibrations que ça pouvait
générer. J'imagine qu'il y a d'autres variations qui disent que comme ça vient peut-être du ciel, ce sont les aliens.
Alors il y en a forcément des trucs comme ça, mais là pour le coup c'est improbable parce que ça ne vient pas du ciel. On
D'accord.
est sûr que ça ne vient pas du ciel, c'est juste que le son est suffisamment global pour qu'on ne sache pas identifier une source et qu'on ait l'impression que du coup ce soit dans l'air.
C'est souvent décrit sur Internet comme les grondements qui viennent du ciel, etc. En fait, ça vient
ça vient pas du ciel. Okay. C'est pas possible. Il n'y a rien qui peut produire ça dans le ciel. Et donc, l'hypothèse des vagues était sans doute une des plus pertinentes, une des plus proches de la vérité, puisque un groupe de scientifiques français a publié une étude intitulée, attention à l'accent, How Ocean Waves Rock the Earth.
Et je pense que les scientifiques français ont dû le dire avec à peu près cet accent-là,
ouais,
quand ils ont présenté le projet. Donc ça va.
Et ça a été publié dans la revue Geophysical Research Letters. Et les résultats de cette étude ont mis en avant l'activité de vagues, mais qui ne sont pas des vagues perdues loin dans l'océan, qui sont en fait des vagues qui sont des courants sous les courants que l'on peut voir et qui forment en fait des mouvements aquatiques dont on n'a pas conscience quand on regarde l'océan, la mer, parce que voilà. Mais en fait, il y aurait des courants aquatiques très forts, très puissants, qui sont proches du fond en fait des mers et des océans. Ces vagues que l'on appelle infragravitaires ont des mouvements beaucoup plus longs, beaucoup plus forts et beaucoup plus constants. C'est pas juste une vague, comme on voit, celles qui vont s'échouer, ce sont des espèces de grands mouvements sous la surface. Et ces vagues-là, elles viendraient taper, en fait, la base des plateaux qui constituent nos continents.
Ce qui expliquerait les frottements, et les bruits et donc voilà. Les vibrations.
Et ils enregistraient des sons provoqués, inaudibles à l'oreille humaine, mais des sons provoqués par ces vagues infragravitaires qui ont des durées qui vont de 3 secondes à 300 secondes. Ce qui colle avec certaines des vidéos postées sur YouTube.
De hum, ouais.
Et donc voilà, ce serait... alors ce serait pas le hum tel qu'on l'entend dans YouTube, mais en revanche, avec l'augmentation du nombre d'infrastructures, de bâtiments en ville, l'augmentation d'utilisation aussi du métal dans les années 50, 60, 70, des constructions, ferait que ces vagues infragravitaires qui en fait vraiment tapent la base de nos continents, hein, donc c'est vraiment c'est des choses qu'on voit pas, et qui provoqueraient ces micro-vibrations, ça se répercuterait suffisamment pour que ça fasse vibrer des infrastructures à un niveau extrêmement fin, mais qui ensemble, du coup, formeraient ce hum qui peut être assez impressionnant.
Et du coup, la plupart des vidéos de hum qu'on voit sur Internet, ça se passe, j'imagine, dans des zones urbaines, puisque c'est là où il y a le plus de bâtiments.
Après, des fois, c'est difficile parce qu'il y en a qui montrent une zone un peu plus forestière, disons, mais on n'a qu'un point de vue, c'est-à-dire qu'on ne voit pas ce qu'il y a derrière.
Autant il y a une ville derrière.
Autant il y a une ville derrière, donc c'est assez difficile. Et puis surtout, il faut quand même le dire, sur YouTube, il y a quand même pas mal de fakes. Hein.
Aussi.
Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de fakes. Et du coup, c'est assez difficile de faire la part des choses en regardant juste ce qu'il y a sur YouTube. Mais en tous les cas, cette étude, disons, propose une hypothèse parce que c'est pas... Qui paraît plausible, parce que c'est pas non plus la vérité, c'est-à-dire qu'ils émettent l'idée que ça pourrait être ces vagues-là. Mais donc, voilà.
Bah, du coup, je pense que le degré de mystère du hum est un petit peu...
Il est encore un peu élevé.
Encore élevé ?
Ouais, il est encore un peu élevé, parce que mine de rien, il propose une hypothèse qui est potentielle, mais ça ne valide pas, par exemple, il ne parle pas des répercussions, l'étude ne parle pas des répercussions dans les bâtiments ou ce genre de choses-là.
D'accord.
Donc c'est vraiment juste... ils émettent juste cette hypothèse de vague infragravitaire qui tape la base des continents.
Et donc, du coup, affaire classée, selon toi ?
Non.
Parce que les explications scientifiques ne couvrent pas la totalité, donc on peut pas fermer l'affaire complètement.
Puis il y a des hums, quand on les entend, qui sont un petit peu différents. Alors ça, on peut se dire, oui, ça fait partie des... c'est pas les mêmes villes qui sont touchées, donc les sons sont différents, c'est logique, en fait. Mais il y a des trucs qui sont pas encore tout à fait expliqués. Il y a notamment un hum qui a été entendu près de la mer. Donc là, on peut se dire que c'est un peu bizarre parce qu'en effet, ils sont près des côtes, mais il n'y a pas nécessairement de grandes zones urbaines derrière. Comme c'est un son qui peut être entendu à des kilomètres à la ronde, c'est impossible d'en avoir une origine. On a l'impression que ça vient de partout. Moi je dis que l'affaire peut encore rester un petit peu ouverte le temps que...
Ok. On va la classer dans notre dossier des affaires non résolues pour
nous.
Les hurlements qui venaient de l'enfer. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si l'enfer existait pour de vrai ? Et s'il existe, est-ce qu'il est vraiment sous terre ?
Et pire encore, une autre question, si l'enfer est vraiment sous nos pieds, jusqu'où faut-il creuser pour entendre les cris des damnés? En 1989, des scientifiques russes ont foré un trou de 14,5 km de profondeur en Sibérie. Le but initial de ce projet était de creuser le plus loin possible sous la croûte terrestre, mais le forage a dû s'arrêter lorsque les engins ont percé une cavité. Les scientifiques, qui ont été intrigués par la présence de cette grande cavité, aussi profondément enfouie dans le sol, ont voulu procéder à des expériences. Ils ont alors descendu dans le puits un micro extrêmement résistant à la chaleur et d'autres équipements sensoriels. Une fois arrivés dans la poche, les instruments se sont affolés. La température atteignait les 1100 degrés Celsius, mais ce n'est pas le détail le plus important. En remontant le micro, qui n'avait heureusement pas fondu, les scientifiques ont découvert qu'ils avaient enregistré quelque chose. Ces sons, je vous propose de les écouter maintenant. Ce que vous venez d'entendre est souvent décrit sur le net comme un authentique enregistrement de l'enfer. Ouais, un authentique enregistrement de l'enfer. La légende raconte que les micros auraient capté les hurlements de millions d'âmes damnées. Rien que ça. Alors, cette histoire a gagné une énorme notoriété grâce à la chaîne Trinity Broadcasting Network. Alors, petit détail important, il s'agit d'une chaîne chrétienne évangélique.
Petit détail important.
Voilà, petit détail important. TBN, comme je les appelais maintenant, assure qu'elle tient son histoire d'un de ses correspondants qu'il aurait lu dans, attention à l'accent, Amenu Satya, un, je cite, journal scientifique finlandais réputé. Fin de citation. En réalité, c'est un magazine mensuel. Donc,
ah merde, Amenu il est mensuel, Satya, déjà c'est plus...
Déjà. Édité par des missionnaires chrétiens finlandais. On est loin du journal scientifique finlandais réputé. Ouais. Ces missionnaires ont assuré qu'eux l'avaient vu dans un article du journal national, était la semaine, qui est effectivement très populaire. Ça, c'est vrai. Mais ils ont mal lu, parce qu'en fait, c'était pas un article, c'était dans les pages de courrier des lecteurs, c'était pas du tout un vrai article. Et le site Truth or Fiction, que je vous conseille, qui est très sympa, a remis la main sur la personne qui a envoyé cette lettre, qui s'est retrouvée dans le courrier des lecteurs, à Etela Soumen. Et c'est un mec qui n'a pas inventé l'histoire, hein. Il l'a vu dans une newsletter de missionnaires finlandais. Une autre.
Oui, bah dis donc.
Hein, on sent que c'est... on est très religieux là-dedans. Cette newsletter-là, dont je vais vous épargner le nom parce que c'est très, très compliqué à prononcer. Cette newsletter-là, elle l'avait trouvée l'histoire auparavant dans un magazine chrétien finlandais en juillet 89. Ah, et là, on commence à arriver à l'origine de l'histoire. Enfin, ce magazine a publié l'histoire via un lecteur qu'il avait vu dans une newsletter de judéo-chrétien installé en Californie un peu plus tôt.
Il y a une histoire entre les newsletters et il y a plein... Hein?
La religion partout, c'est... déjà.
La religion partout, les newsletters aussi.
Alors oui, voilà, ça fait beaucoup de trucs religieux et les médias en question sont très obscurs puisque je rappelle que l'origine de l'histoire est donc une newsletter de judéo-chrétiens installés en Californie, donc qui ne sont pas du tout européens.
Ouais.
L'histoire est censée se passer en Europe quand même.
En quelle année du coup cette newsletter?
Alors c'était en 1989, juillet 89. Okay. Voilà. Et ce qui est fascinant, c'est que tout au long de cette chaîne là que je viens de décrire, personne... Absolument personne n'a pensé à vérifier l'histoire. C'est fou. Donc bon, à ce stade-là, vous, chers auditeurs, et toi, Charles, vous commencez à en douter de la véracité de cette histoire. Soit tout a été inventé, soit quelqu'un, tout au bout de la chaîne, a mal compris une info et a écrit n'importe quoi.
Tu veux dire l'histoire du creux, enfin du trou de 14...
Ce que j'ai raconté au tout début, la chaleur extrême, les hurlements de l'enfer.
Le micro, l'enregistrement, tout ça.
Exactement. Il y a une chose qui est sûre, c'est que ce n'est pas l'enfer, on entend sur l'enregistrement, mais ça, vous en doutiez un petit peu. En fait, la newsletter de judéo-chrétien californien, elle s'est sûrement, même très probablement, basée sur un vrai forage.
D'accord.
Mais qui n'avait rien à voir, pour sortir cette histoire. Parce que c'était une bonne occasion de prouver que l'enfer existe, ce qui est quand même plutôt commode pour des chrétiens et des judéo-chrétiens. En réalité, il y a bien eu un forage profond qui a été réalisé par l'Union soviétique. C'était dans la péninsule de Kola, tout près de la Finlande, donc on est toujours dans l'URSS. Mmh. C'était le forage SG-3. les scientifiques ont tout de même réussi à aller jusqu'à 12,2 km de profondeur. Wow. C'est un petit peu moins loin, mais c'est déjà énorme. Le projet avait surtout un intérêt scientifique. Ça a permis de faire remonter à la surface des roches qui dataient de 2,7 milliards d'années quand même. Donc pour les analyses scientifiques, c'était très intéressant. Voilà, ça a été longtemps d'ailleurs le forage le plus profond du monde. On était en pleine période de guerre froide, donc il y avait aussi une petite concurrence avec les États-Unis pour savoir qui c'est qui va creuser le plus loin.
C'est ça.
Donc voilà, ça a été très longtemps le forage le plus profond du monde. Il a été dépassé de seulement quelques mètres en 2008 par un forage au Qatar. Et puis en 2011, par un autre forage russe, parce que les Russes voulaient reprendre un petit peu, voilà, ils voulaient reprendre la main, sur l'île Sakhaline, qui est en Asie. Donc à Kola, tout le matériel en revanche a été retiré en 2005 parce que le lieu est totalement abandonné ensuite depuis 2008. Après la fin de la guerre froide, en fait, le forage a tout simplement cessé parce qu'il n'y avait plus vraiment d'intérêt et qu'on avait eu suffisamment de données scientifiques et que ça commençait à coûter très cher cette histoire.
Ouais.
Parce que effectivement, la chaleur commençait à être un peu intense, pas 1100 degrés comme ça a été dit, hein, mais quelques centaines. Mais bon, ça reste déjà énorme pour avoir des outils qui permettent de continuer, quoi.
Ça reste quand même un bon four.
Exactement. Donc la fin de la guerre froide, c'est en 1980, enfin au moment de la fin de la guerre froide, en 89, ils arrêtent tout, donc pour la politique, mais aussi à cause de la pression du sol et de la chaleur. Et comme par hasard, c'est justement en 1989 qu'un article sort là-dessus dans la très respectable revue Science, et que juste après la sortie de cet article dans la revue Science, les premiers articles sur un puits vers l'enfer commencent à apparaître.
On voit le basculement, on voit le truc.
Exactement. Ouais. Alors au fil des mois, cette histoire de puits vers l'enfer s'est agrémentée de plein de détails qui ont été inventés par un type que je trouve fascinant. J'adore ce mec. Il s'appelle Åge Rendalen. C'est un professeur norvégien.
Ah, on s'est passé de la Finlande à la Norvège.
Voilà. Lui, il a entendu l'histoire sur TBN lorsqu'il était de passage aux États-Unis. Et au lieu de décrédibiliser l'histoire tout de suite en disant « mais c'est des conneries, c'est la revue Science, ça a arrêté », il a voulu s'amuser un peu. Il a décidé de pousser le bouchon encore plus loin, de voir jusqu'où ça pouvait aller. Alors lorsqu'il est rentré en Norvège, il a envoyé une lettre à TBN, il les a félicités pour leur histoire, il leur a dit que c'était formidable, il leur a dit de ne pas se laisser impressionner par les sceptiques. Et il leur a aussi donné un article en norvégien, mais qui n'avait absolument rien à voir et qu'il avait volontairement mal traduit.
Mal traduit, ouais, putain, j'étais sûr.
Et cette fausse traduction comprenait notamment le témoignage d'un certain monsieur Numendal, soi-disant témoin du jour où les hurlements auraient été entendus. Et alors je vais lire son témoignage qui a été donc totalement inventé par ce bon professeur Rendalen. C'est génial. Une intense lumière s'échappa du forage et dans un nuage incandescent, une créature ailée s'envola dans les airs. Elle avait de grands... ne ris pas tout de suite, c'est pas fini. Je reprends. Elle avait de grandes ailes de chauve-souris. Et au moment de son apparition, les mots « J'ai conquis » écrits en russe apparurent en lettres de feu dans le ciel sibérien. Les soviétiques hurlèrent de terreur.
C'est la naissance de Poutine, en fait. C'est comme ça qu'il est né. Il est sorti de terre déjà adulte avec des ailes.
On est d'accord, c'est complètement fou. Et si, d'ailleurs, vous aussi qui nous écoutez, si vous trouvez ça beaucoup trop fou pour que quelqu'un puisse y croire, sachez que Åge Rendalen aussi se disait ça. Mais ils voulaient savoir si TBN se donnerait ou non la peine de vérifier. Et évidemment, ils ne l'ont pas fait. Et l'histoire de la chauve-souris géante qui s'échappe du forage en mettant « J'ai conquis » dans le ciel russe en lettres de feu a bien été diffusée sur TBN. Rendalen a ensuite sorti un communiqué pour raconter ce qu'il a fait, pour attirer l'attention des gens sur le pouvoir de la rumeur, sur le problème qu'il y avait à ne pas vérifier les sources. Quelque chose sur lequel on est très à cheval ici dans l'émission. Il explique que toute l'histoire du trou vers l'enfer, y compris ses origines au newsletter de chrétiens finlandais, n'a aucune base réelle et n'est rien, je cite Åge Rendalen, rien d'autre qu'une légende urbaine chrétienne.
Ah, chrétienne et politique, j'ai envie de dire.
Et un peu politique,
parce
effectivement.
Parce que dans un contexte où c'est celui, grosso modo, qui soit parle plus loin dans l'espace, soit creuse le plus profond, voilà, pour montrer qu'il y a la plus grosse, ça, c'est hyper tentant. Justement du côté
américain.
US, de se dire bah regardez, ils ont creusé tellement profond, l'enfer il est sous leurs pieds, il est pas sous le nôtre, c'est eux les méchants.
Ça prouve que les Russes c'est des démons.
Ouais, voilà, tu vois, s'ils viennent tous
effectivement,
de
effectivement, j'avais pas pensé à ça, mais c'est effectivement.
Dire bah oui, ils creusent suffisamment loin pour arriver en enfer parce que ce sont les Russes et que leur terre est démoniaque, ce sont les ennemis.
Voilà, donc les Russes ne sont pas démoniaques, enfin pas tant que ça.
Non.
Pas à ce point-là en tout cas. Et donc toute l'histoire est fausse, mais il reste quand même une dernière question, c'est d'où viennent les sons ?
Et oui,
parce que là,
oui,
ça, là j'ai diffusé des sons, mais d'où ils viennent ceux-là ?
Attends, tu as pas dit que c'était dans notre forage ?
Alors non, ça vient pas du tout de ce forage, ça n'a absolument rien à voir. En fait, c'est un peu difficile à dire d'où viennent les sons. Il y a une seule chose qui est sûre là-dedans, c'est que l'enregistrement n'est pas authentique, c'est pas le forage. C'est un montage, très clairement. Il y a plusieurs personnes sur Internet qui ont analysé le son, et le son a, pour eux, été évidemment trafiqué, puisqu'il y a une boucle qui apparaît. Il a été créé de toutes pièces sur un logiciel de montage audio. Et certains analystes pensent que le montage a été réalisé à partir d'un extrait du film Baron Vampire de Marion Bava. Donc on va passer l'extrait. Voilà, donc ça ressemble à peu près, même si c'est pas tout à fait ça. Le film est sorti en 72, donc bien avant l'affaire, bien avant le forage, donc ça pourrait coller. Techniquement, avec les dates, ça pourrait fonctionner. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit un extrait de Baron Vampire ou non, le document audio qu'on a passé au début est tellement trafiqué qu'on ne discerne presque plus l'original. Donc voilà, origine mystérieuse, mais très clairement c'est un montage.
Très clairement, j'ai envie de te dire que le niveau de mystère est tombé au plus bas.
Exactement, zéro, tout est faux, magnifique fake cependant, sublime. Et
repris encore par la presse, même
repris
française, il n'y a pas si longtemps.
Effectivement, non, c'est quelque chose qui dure depuis très longtemps, qui évidemment a commencé à se répandre encore plus avec Internet, puisque le fichier a été largement partagé. Donc voilà, forcément avec un audio aussi sympa et une histoire aussi impressionnante, et les détails de la graine d'haleine me font mourir de rire, ça ne pouvait que prendre sur Internet. Donc voilà, c'est une très belle légende urbaine chrétienne, comme le disait la graine d'haleine, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette expression, légende urbaine chrétienne.
C'est une catégorie dans les légendes urbaines.
Voilà. Alors, petit bonus en revanche, Cola, dont je parlais tout à l'heure, le vrai forage, celui-là, G3, continue d'alimenter les légendes.
Ah.
Et ça, c'est assez marrant. Donc, il a donc inspiré Le Puits vers l'Enfer, mais il en a inspiré un récemment. En 2016, il y a une théorie du complot qui est apparue sur Internet, qui était formidable. Il disait que de l'eau du déluge, donc le vrai déluge, celui avec Noé, l'arche, tout ça, a été retrouvé dans le puits.
Et à quoi ils ont pu différencier l'eau du déluge de l'eau ?
Parce que c'est de la vieille eau, visiblement. Mais qui a été retrouvé dans le puits en 2016, qui est définitivement fermé depuis 2008.
D'accord, ok.
Non, ce n'est pas possible, puisque ça s'est arrêté en 2008. Ça s'est même arrêté en 2005, en 89, le forage. Donc, ce serait étonnant qu'en 2016, on commence à retrouver encore de nouvelles choses à l'intérieur, puisque personne n'y va, à part des gens d'Urbex, j'imagine. Mais, et encore, je ne suis même pas sûr, parce que ça doit être protégé par l'armée.
Oui, j'en suis sûr, ouais, je pense.
Donc voilà, moralité, ne croyez pas à tout ce que vous voyez sur Internet, et notamment dans les newsletters chrétiennes. C'est important de le préciser.
On classe l'affaire ?
Allez, affaire extrêmement classée. Ouais.
L'exorcisme d'Annelise Michel. Vous avez sans doute vu le film L'Exorciste de William Friedkin. Si vous ne l'avez pas fait, on vous le conseille. Hein. Ou encore L'exorcisme d'Emily Rose de Scott Derrickson. Et vous avez sans doute eu peur devant le corps déformé d'une enfant qui semble possédée par une entité venue de l'au-delà. Et bien ce soir, dans ce numéro spécial d'enregistrement de l'étrange, je vous propose de vous raconter l'histoire vraie qu'il y a derrière ces films, qui a inspiré ces films. L'histoire vraie, c'est celle d'Annelise Michel, qui a subi, avant de mourir en 1976, pas moins de 67 exorcismes.
Ça fait beaucoup.
Ça fait beaucoup.
Et d'ailleurs, petite précision cinématographique, bon, les auditeurs d'Inspiré de Ferrel le savent déjà, mais sachez que l'histoire d'Annelise Michel a donc inspiré l'exorcisme d'Emily Rose, et non pas l'exorciste.
Oui, oui, oui.
Voilà, petite précision, l'exorciste, c'est une autre affaire. On n'a pas les bandes de l'enregistrement pour l'exorciste. Ouais. Donc là, on vous fait Annelise Michel, l'exorcisme d'Emily Rose.
Et d'ailleurs, on va l'écouter tout de suite. Et là, pour le coup, trigger warning.
Ouais, c'est assez impressionnant.
Âme sensible, s'abstenir. Si vous êtes sensible à ce genre de truc-là, passez une minute là, revenez après, allez faire un pipi.
C'est assez compliqué, on va pas se mentir.
Allez vous prendre un verre d'eau, je sais pas. Mais on l'écoute tout de suite.
Ja, Es dauert nämlich nicht mehr lang. Bis kommt das Strafgericht. Und nicht mehr lang dauert es.
Noch veröffentlicht.
Nee. Ja. So, jetzt krieg ich ja genug Tage, ihr Drecksohn, ja. Für den sehr gerne Fahrrad, oh, der wird den da drinnen, so. Ja, ja. Für den müsst ihr beten. Oh, sonst geht er nämlich in den Graben rein.
Oh. Denkens, was geht denn im Graben rein?
Ah, der ist so modern.
Verlaufung Spiritus Sancto, der Hauptsiedlung Sancte Crucis Jesu Christi Domini Nostru, nicht und gewalten. Seid ihr zufrieden mit den Änderungen? Sag mal die Wahrheit. Diese Änderungen, die gefallen euch. Sind die gut?
Anne-Lise Michel est née en 1952 à, alors il faut que je le prononce bien encore une fois, Leipzig en Allemagne, hein, comme l'enregistrement ne l'indiquait pas. Elle a grandi dans une famille extrêmement pieuse. Son père s'appelle Joseph.
Comme c'est souvent le cas dans les cas d'exorcisme. Hein.
Voilà, exactement.
Faut-il y voir un rapport ? Peut-être.
Il travaille dans une scierie après avoir tenté de rentrer dans les ordres. Il n'a pas réussi. Et Anna, sa mère, qui était mère au foyer, et elle se consacrait à 100% à l'éducation d'Annelise et de ses trois sœurs, puisque Annelise a trois sœurs. Elle a mené quand même la petite Annelise, avant de terminer, comme vous l'avez entendu, elle a mené une enfance parfois perturbée. Elle a notamment été admise à l'hôpital de Mittelberg, un sanatorium donc, qui est destiné à soigner les enfants souffrant de la tuberculose. Et à son retour du sanatorium, elle est admise dans l'école secondaire de Aschaffenburg.
On voit que monsieur a travaillé son allemand.
C'est ça. Et donc, quand elle revient du sanatorium, la vie semblait reprendre son cours, hein, mais progressivement, Annelise va avoir des difficultés à marcher et à parler, qui sont des choses assez basiques, tu en conviendras. Elle avançait dans sa maison, mais en se tenant aux chaises, en se tenant aux tables, elle avait des difficultés à se déplacer, elle titubait pas mal, et donc elle ne se déplaçait plus normalement. Et c'est un jour donc de 1968, hein, je vous rappelle que Annelise Michel est née en 1952, et c'est un jour de 1968 qu'Annelise commence à trembler et qu'elle perd le contrôle de son corps. Une fois qu'elle a perdu le contrôle de son corps, elle a perdu la capacité à parler. Et on se doute bien que c'est un petit peu angoissant, puisque en perdant la capacité de son corps, elle tremblait tout simplement au sol, elle n'était plus capable d'appeler à l'aide. Donc, une situation un petit peu angoissante. Cette année-là, puisque ces symptômes sont assez typiques d'une certaine maladie, cette année-là, un neurologue diagnostique qu'elle souffre en fait d'épilepsie. Et à ce moment-là, elle est immédiatement admise à l'hôpital pour traitement. Le problème, c'est qu'après ces premières attaques qui sont donc attribuées à de l'épilepsie, Annelise va commencer à voir, elle va dire qu'elle va voir, des visages démoniaques. Pendant ces crises, elle va donner un nom à ce visage, un nom très allemand, Fratzen. Et ce personnage, quand elle le voit, est souvent en train de grimacer. Donc, ce qui ajoute à la terreur déjà de la situation de ne pas pouvoir appeler ses parents. Elle entend aussi des voix, et c'est sur ce volet que les médecins vont s'avouer les plus impuissants, c'est-à-dire que sur les hallucinations visuelles, il y a encore des choses explicables. En revanche, si elle entend des voix, c'est déjà, euh, c'est déjà un petit peu plus inexplicable. Les semaines passent, mais à défaut d'être soignée à l'hôpital, Annelise tombe en dépression. Donc l'hôpital ne va pas du tout la guérir. Elle va plutôt tomber en dépression. À partir de là, la jeune femme va avoir l'impression, la sensation d'être possédée par des êtres démoniaques. On rappelle que, évidemment, venant d'une famille très pieuse, elle a une bonne connaissance de ce que sont ces êtres démoniaques, disons. Enfin, elle baigne dans une culture où elle sait ce que c'est. Elle sait ce que c'est que de pécher, elle sait ce que c'est que voilà. Donc, on peut imaginer potentiellement tout un tas de choses, hein.
C'est le cas, on le disait tout à l'heure, dans la plupart des cas d'exorcisme, ouais. Quand les gens ont la sensation d'être possédés, c'est souvent lié à leur environnement familial, leur environnement culturel.
Disons qu'ils interprètent leurs sensations physiques à l'aune d'une culture qu'ils ont déjà. Et là, en l'occurrence, pour Annelise Michel, on sent que les crises d'épilepsie, bon ben voilà, on est dans les années 60, hein, et quand on n'a pas, un milieu, disons, médical extrêmement présent dans la famille ou quelque chose comme ça, où il n'y a pas les connaissances nécessaires, ben, on peut interpréter les choses de différentes manières. Et cette sensation, du coup, de possession par des êtres démoniaques va l'amener à se plonger encore plus dans la religion. C'est-à-dire qu'elle vivait dans une famille très pieuse, mais elle va s'y plonger encore plus. Et elle finira quand même par sortir de l'hôpital, hein, par quitter l'endroit, et à commencer ses études. Malheureusement, pour Annelise, la situation va continuer à empirer. Puisqu'au début de l'année 1973, les crises n'ont pas cessé. Et les parents d'Annelise, donc Joseph et Anna, pensent que ce n'est plus de l'épilepsie. Sinon, ça se sera arrêté après l'hôpital. Logique, qui serait donc du coup la cause du problème. Donc il décide de rentrer en contact avec un prêtre. On se dit bonne idée. En 1974, un prêtre l'examine donc et accepte, disons, propose de pratiquer un exorcisme, mais ses supérieurs lui interdisent, en l'occurrence. Son état va empirer, les crises vont devenir de plus en plus compliquées, de plus en plus dures. Les crises deviennent très violentes, hein. Elle se débat, elle frappe les gens de sa famille. Donc voilà, elle est plus simplement paralysée, tremblante ou quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'elle devient...
Elle adopte un comportement violent,
Et carrément, carrément agressif. Elle refuse de s'alimenter, et donc comme je disais, la situation s'empire, hein. Et là on peut dire que pour la pauvre Annelise, les carottes sont cuites, hein. Elle bougeait tellement pendant certaines crises dans son lit qu'elle dormait à peine. Elle dormait à peine, ou alors elle dormait à même le sol. On pouvait l'entendre toute la journée en train de hurler, de briser des crucifix aussi.
C'est une activité très démoniaque.
Ouais. De démolir les représentations du Christ qui sont à sa portée. Ce que tout démon rêve de faire, évidemment. Et finalement, en 1975, voyant l'état empirer, l'archevêché autorise un exorcisme fondé sur le rituel romain.
Le fameux rituel romain qui est utilisé la plupart des exorcismes, effectivement.
Ouais, exactement.
Et c'est justement un de ces exorcismes, puisqu'il y en a eu beaucoup. Mm. Tu disais plus d'une soixantaine.
À la fin. Ouais, là, il n'y en a pas encore eu un seul. Là, c'est le premier.
Là, c'est le premier. Ouais. Et l'enregistrement que nous avons diffusé tout à l'heure, c'est un des nombreux qu'il y a eu.
C'est même une compilation.
C'est une compilation.
En fait, les sons qu'on a entendus, c'est une compilation de petits enregistrements, des choses comme ça. C'est-à-dire que tout le fichier n'est pas un seul exorcisme.
D'accord. C'est important de le préciser.
Ouais. Donc le curé de la paroisse d'Annelise va estimer, au moment de cet exorcisme, qu'elle n'est pas possédée par un seul démon, mais qu'elle est possédée par plusieurs démons. À partir de 75, un an plus tard toujours, à ce moment-là, ça s'intensifie puisqu'on va commencer à pratiquer un à deux exorcismes par semaine, en 75. Parfois, les crises étaient tellement violentes que le curé n'était pas suffisant. Il fallait que la famille la tienne, il fallait que le curé la tienne, il fallait que... Enfin, voilà quoi, elle devait être maîtrisée physiquement par plusieurs personnes. Mais malgré cela, elle arrive à avoir encore une vie un peu normale, à aller à l'école et autres activités. Mais son état va encore empirer. C'est une longue descente aux enfers, sans mauvais jeu de mots.
Littéralement une longue descente aux enfers.
Littéralement, ouais. Puisque c'est ce qu'on appelle, vous savez, les génuflexions. c'est quand on se met à genoux pour prier, elle va en faire tellement, c'est-à-dire qu'elle va garder une activité religieuse, et elle va faire tellement de génuflexions par jour qu'en fait elle va avoir des problèmes aux ligaments, elle ne pourra plus du tout se tenir debout. Elle va en faire jusqu'à 600 par jour.
Ah oui.
Ouais, sur plusieurs jours. C'est,
grosse session fitness, quoi.
Ouais. C'est du crossfit niveau maximum. Le dernier exorcisme aura lieu le 30 juin 1976. À ce stade, Anne-Lise souffre d'une pneumonie. Elle a souffert d'autres maladies entre-temps, et à ce moment-là, elle souffre d'une pneumonie. Elle avait le visage complètement émacié. Elle souffrait, elle avait de la fièvre en permanence.
Il y a des photos sur internet de l'avant, ouais. Après.
Voilà. Et là encore.
C'est impressionnant.
Ouais, si vous êtes un petit peu sensible à ce genre de truc, regardez pas, ça sert à rien. Contentez-vous de la description. Et donc, elle va mourir le 31, donc elle. Oui, c'est ça, il y a bien un 31 juin. Je dis pas de bêtises.
Je sais
pas. On compte sur nos doigts, comment c'est. Mais elle va mourir le lendemain du 30 juin 1976. Elle meurt le lendemain. Elle meurt le lendemain, et le rapport d'autopsie indique que sa mort est liée à une sévère malnutrition, donc je reprends les mots, et une déshydratation, qui était le fait du refus de s'alimenter. Et donc voilà, elle va décéder, un procès va avoir lieu.
C'est ce procès-là, en fait, qu'il y a dans L'Exorcisme d'Emily Rose, parce que ouais. Alors, c'est un film d'horreur, L'Exorcisme d'Emily Rose, mais c'est aussi et surtout pour moi un film d'avocat.
Oui,
c'est un film qui se passe énormément au tribunal.
En fait, il y a deux sessions, il y a deux passages dans le film, c'est-à-dire qu'il y a c'est sous forme de flashback,
ouais.
La plupart du temps, les scènes de possession, les scènes d'horreur, mais le temps réel du film, c'est celui du procès. Ouais.
C'est ça. En fait, on suit vraiment le procès, et, qui est très intéressant, et on a en flashback, à chaque fois qu'un moment est évoqué, une partie film d'horreur où on suit. J'ai oublié le nom de cette actrice, mais qui est excellente.
C'est Debra Morgan dans Dexter.
Exactement, je vais chercher son vrai nom. Enfin bref, voilà, c'est la sœur de Dexter, qui est très bien dans ce film, qui porte vraiment toutes les scènes de flashback, et c'est un bon film, voilà, si on peut vous le conseiller au passage. Donc, quant à Anne-Lise Michel, degré de mystère.
Le degré de mystère est quand même pas mal retombé, parce que beaucoup de choses sont en fait explicables de manière.
Puis médicale. Avec le procès, il me semble que le prêtre a été condamné aussi.
Oui, le prêtre a été condamné. Et beaucoup de choses sont en fait explicables de l'éducation religieuse assez sévère qu'elle a reçue, des crises d'épilepsie et en fait de la paranoïa, parce qu'après il y a les causes médicales et puis il y a les causes psychologiques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu interprètes, comme je disais, des choses à l'aune de ta propre culture, tu peux entrer dans un mode de paranoïa qui explique la malnutrition, qui explique le refus. Enfin, voilà,
c'est ce qui a été reproché au prêtre d'ailleurs, ouais, pendant le procès, c'est d'avoir entretenu ça.
Ouais, tout exactement. À fait, exactement. Ouais.
Après, on peut comprendre aussi, et d'ailleurs, ça a été compris par une partie du jury, mais c'est vrai que dans ce cas de figure, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'exorcismes, et que d'ailleurs, le Vatican vient de rouvrir un cours d'exorcisme pour former les prêtres au rituel romain.
On s'inscrit ?
Je ne sais pas. Je pense pas qu'ils vont nous accepter. Je crois que j'aimerais bien voir la gueule des séminaires, en tout cas. Alors, aujourd'hui, en formation TD sur comment exorciser un démon, moi, c'est littéralement ce qu'ils font, hein, ouais. Mais le chef exorciste du Vatican avait lui-même reconnu que psychologiquement, en fait, l'exorcisme pouvait aider chez des personnes qui sont intimement convaincues qu'elles sont possédées. Mmh. Et en fait, un psychologue classique n'y arrivera pas, puisqu'ils sont tellement enfermés dans leur croyance qu'ils sont possédés par un démon qu'ils ne croient. Qui pourront pas s'en sortir.
C'est ça.
En fait, le prêtre, avec son rituel, fait limite office de thérapeute.
Ouais, ouais, tout à fait, ouais.
Alternatif, quoi.
Si tu crois pas en système de. Enfin, tu crois pas en la psychologie, mais tu crois en un autre système de croyance, et du coup, tu seras plus apte à être aidé par ce système-là.
C'est pour ça qu'Anne-Lise Michel, vu l'environnement familial qu'il y avait, je ne sais même pas si, même si le prêtre n'avait pas été là.
Ouais.
Si elle aurait pu être sauvée, puisque c'est difficile. C'est, en tout cas, l'avis du corps médical, c'était qu'elle aurait dû être hospitalisée et qu'il y avait une chance de la sauver dans le corps médical. Peut-être, effectivement, mais je pense que psychologiquement, il y avait tellement la conviction d'être possédé que je ne sais même pas si le corps médical aurait pu réellement faire quelque chose dans ce cas-là. Quoi. Et le pouvoir des convictions, le pouvoir des croyances, c'est exactement ça.
Bon, affaire classée ?
Allez, affaire classée. La mort au bout du fil. Le coup de téléphone de Ruth Price, une vieille dame américaine, fait frissonner les internautes depuis 2004. Et l'enregistrement de son appel de détresse au 911, le numéro des secours, semble tout droit sorti d'un film d'horreur. Alors aux États-Unis, le numéro d'appel d'urgence, c'est le 911. Ça, on le sait, on regarde des séries américaines, tout ça, on le sait. Chaque jour, ce numéro est composé des millions de fois à travers tout le pays et forcément, les opérateurs ne peuvent pas sauver tout le monde. C'est impossible. En de rares occasions, les personnes qui sont chargées de répondre aux appels se retrouvent même totalement désemparées et doivent assister, un peu impuissantes malheureusement, à la mort de leur interlocuteur. Plusieurs témoignages de ces opérateurs existent d'ailleurs sur Internet. Ils racontent les sons qu'ils ont entendus, qu'ils hantent encore, des personnes en train de mourir à l'autre bout du fil. C'est assez horrible, notamment les battes de baseball qui éclatent le crâne d'une victime, la détonation d'un revolver, les hurlements. Enfin, c'est des choses, on imagine, qui doivent hanter les opérateurs du 911.
Tu commences bien, dis donc.
Oui, on se met dans l'ambiance. Hein. Et forcément, il y en a certains qui sont complètement à bout et qui sont très psychologiquement atteints et qui sont vraiment envahis par ce sentiment de culpabilité de ne pas avoir pu aider et qui n'ont pas d'autre choix que de démissionner, en fait. D'ailleurs, en 2014, petite histoire avant d'arriver à Ruth Price, à Denver, dans le Colorado, il y a une femme qui s'appelle Christine Kirk qui est restée 12 minutes en ligne avec un opérateur.
C'est la femme du capitaine.
Tu vas voir qu'il est moins sympathique que le capitaine Kirk, son mari. Parce que si elle a appelé le 911, c'est parce qu'elle avait justement peur de son époux. Son mari était dans un état second, il était sous l'emprise de la drogue, en train de délirer sur la fin du monde. Et à l'autre bout du fil, l'opérateur a rien pu faire et il a dû entendre le mari de Christine Kirk lui tirer dessus.
Ah merde.
Puis son agonie, malheureusement. Et la patrouille de police la plus proche n'était plus qu'à quelques secondes du domicile lorsque la détonation a été entendue. Donc ça a évidemment profondément bouleversé l'opérateur qui a quitté la police de Denver. Mais cet enregistrement-là, même si on a beaucoup parlé de l'affaire aux États-Unis, n'a jamais été diffusé. Et d'ailleurs, fort heureusement, plutôt, la police ne dévoile jamais les fichiers audio enregistrés lors des appels au 911. Il y a quelques exceptions, hein, notamment, mais ça c'était la presse qui se l'était procuré, notamment l'appel qu'on avait eu lors de la fusillade qu'on voit à Columbine, où les bandes avaient été sorties, mais c'était pas le fait de la police. La police, elle les garde souvent sous séquestre, elle les diffuse jamais, mais il y en a certains qui circulent sur Internet, comme celui que je vais vous faire écouter à présent. La première trace de ce fichier que j'ai pu retrouver remonte à septembre 2004, donc c'est pas tout jeune. Et depuis, il a effrayé énormément d'internautes sur la toile. Et il s'agirait, selon sa description, de l'appel de détresse d'une vieille dame du nom de Ruth Price. Donc on l'écoute tout de suite.
What's the problem, ma'am? Oh, there's some guy been checking the place out.
How?
Well, he went in the back. I have an apartment in the back, and he said he was looking for a guy. And he comes to my door. And...
Yeah.
And said he's looking for an apartment. So I live alone, and I'm an old lady.
Mm-hmm. Where is he now, ma'am?
I don't have no idea.
Enregistrement un petit peu troublant, effectivement. L'histoire dit que Ruth Price était une vieille dame qui vivait seule et elle aurait remarqué la présence d'une personne en train de rôder près de chez elle. Elle a donc appelé assez logiquement le 911 pour demander de l'aide et c'est ce qu'on entend sur cet enregistrement. En fait, elle dit que l'homme est près de sa porte, pour ceux qui n'auraient pas compris en anglais, elle dit que l'homme est près de sa porte et qu'il essaye d'entrer dans son appartement et là l'opératrice forcément s'inquiète. Donc l'opératrice s'inquiète et demande où est l'homme, est-ce qu'elle le voit, et on entend Ruth dire qu'elle sait pas où il est, qu'elle a perdu sa trace, qu'elle le voit plus quoi. Ensuite on entend un coup, des hurlements, des plaintes, et c'est ça qui est un petit peu troublant sur l'enregistrement. Et en fait Ruth serait tout simplement morte pendant l'appel, battue et étranglée avec le fil du téléphone, avant que la police n'ait le temps d'arriver. Voilà. Alors maintenant la question qu'on se pose c'est est-ce que l'enregistrement est authentique?
On peut complètement le jouer.
Voilà. Ça peut être une pièce radiophonique, ça peut être plein de choses en fait. Mais il y a énormément de mystères là-dessus sur Internet, parce que comme je disais, la première trace remonte à septembre 2004 sur le site Internet britannique d'un certain Barney Diamond, qui était un magicien, qui n'est plus en activité aujourd'hui, je me suis renseigné.
Et c'était pour juste, c'était quoi, c'était un tour de magie?
Non, tu sais, c'était un petit peu les débuts vraiment de la DSL, donc c'est les gens avaient des sites où ils mettaient les trucs qui les intéressaient, genre le mec avait la partie de son site sur son activité de magicien, ouais. C'est les coupures de presse qu'il y avait eu sur son show. Mais il avait aussi d'autres parties, notamment une zone que j'ai pu retrouver parce que le site a disparu. Hein. Mais avec la Internet Wayback Machine,
oui, fabuleux site
d'Internet Archive, j'ai pu retrouver à quoi ressemblait le site à l'époque. Et il y avait une section qui s'appelait Disturbing Audio Clips. Donc c'était une compilation de bruits qui sont un petit peu dérangeants. Le premier extrait de cette page, c'est celui de Russ Price, mais on y trouve aussi notamment celui de la tuerie de Columbine, donc, qui est authentique. Et donc voilà, celui de Russ Price qui a été mis en ligne donc sur la première truc en septembre 2004, qui fait débat depuis, parce que beaucoup disent qu'il s'agit purement et simplement d'un fake qui a uniquement pour but d'effrayer les internautes. Alors, on peut comprendre, parce que vous l'aurez peut-être remarqué en l'entendant si vous n'avez pas trop frissonné, l'enregistrement sonne un petit peu faux parfois. Il y a un moment où Russ dit carrément « Je suis réel, je suis une vieille dame ». C'est un petit peu bizarre pour poser un personnage. C'est pas un truc que tu dirais quand t'es au téléphone avec le 911. Enfin, c'est pas le premier truc que tu dirais. Il n'y a pas eu non plus d'article au sujet d'une vieille dame tuée pendant un appel au 911. Et le comportement de l'opératrice ne colle pas à une situation réelle.
D'accord.
Ah, elle pose pas les bonnes questions. Voilà, on dirait que c'est pas une vraie opératrice du 911. Parce que normalement, il faut demander tout de suite à la victime son adresse. C'est la première chose qu'on demande pour que la police puisse intervenir au plus vite.
Ça géolocalise pas les appels toujours?
Alors aujourd'hui un petit peu plus j'imagine, parce qu'il doit y avoir des outils, mais voilà, c'est une question qu'il faut poser en tout cas avant qu'il y ait la géolocalisation. C'est... parce que là l'enregistrement daterait, s'il est en 2004, début des années 2000, je pense que ce soit encore assez répandu. Donc il faut toujours demander l'adresse de la personne, et il faut aussi essayer de la calmer. Ce que ne fait pas l'opératrice dans cet enregistrement, elle reste stoïque, même quand Russ meurt, n'a pas de réaction de sa part. Et là, quand on entend tout ça, on a envie de dire fake, légende urbaine, canular, tout ce que tu veux. Mais c'est un peu plus compliqué que ça, en réalité. Sur le thread Reddit, puisqu'il y a un énorme thread Reddit qui est consacré à la mort de Russ Price, évidemment, et sur les commentaires YouTube, des vidéos qu'ils reprennent aussi, il y a beaucoup de choses intéressantes, notamment certaines personnes qui disent que l'enregistrement viendrait, donc serait fake, hein, mais viendrait en réalité de l'album Hate Culture du groupe William Control.
Pas.
On entend l'appel de Russ en bonus track à la toute fin de l'album, mais cette théorie ne tient pas puisque l'album est sorti en 2008. Parce que j'ai oublié de le préciser, mais donc si la première trace remonte à 2004, c'est vraiment à partir des années 2010 que ça revient à fond, quoi.
D'accord.
Donc voilà. Donc là, je suppose que comme c'est sur l'album Hate Culture à la fin, ça a pu être re-rippé et re-uploadé, etc. Parce que j'ai vérifié effectivement à la toute fin de l'album, une espèce de bonus track, on entend ça.
C'est une super idée de bonus track, disons.
C'est super, c'est excellent. L'autre hypothèse, et c'est ma préférée, celle-là, c'est que l'enregistrement date en réalité des années 80. Et il y a un message qui a été écrit sur Reddit par une personne qui dit avoir travaillé pour le 911 en Floride au début des années 90. Et enfin, c'est ce qu'elle dit. Hein. Ouais, voilà son message. Cet appel nous a été diffusé pendant notre formation. C'était un exemple pour nous montrer à quel point il est crucial de demander l'adresse de la victime avant toute autre chose. Je crois que cet appel était très répandu dans les formations, et ça ne m'étonnerait pas qu'il soit encore utilisé aujourd'hui. Donc, très bonne idée, hein, parce que selon cet utilisateur de Reddit, l'appel daterait d'au moins 1988, puisque c'est le moment où lui a été a passé en fait son entraînement pour travailler au 911. Et à l'époque, selon lui, la victime s'appelait déjà Russ Price. Donc voilà, donc en fait, ce sera...
C'est un peu une Jane Doe...
Voilà, jusque-là c'est tout à fait possible, mais après il y a un autre détail qui est un petit peu plus surprenant, auquel moi j'ai du mal à croire, c'est toujours dans ce même message. Hein. Il précise qu'à l'époque où on lui avait diffusé l'appel dans le centre, pendant sa formation, on lui avait présenté comme étant un enregistrement 100% authentique.
Donc quand même, on revient quand même...
Voilà, et c'est ça qui rajoute du mystère, parce que là tu pourrais dire, oui, en fait c'est un truc...
Oui. Ça a été joué, pour donner un exemple, qu'est-ce que c'est un mauvais opérateur, ne faites pas comme ça.
Voilà, exactement. Sauf que ce mec-là, et c'est pas le seul d'ailleurs, il y a un autre gars dans des commentaires YouTube, alors peut-être que c'est la même personne sous un autre pseudo, on sait pas. Hein. En l'occurrence, moi j'ai trouvé deux comptes en tout cas qui disaient ça, que l'enregistrement leur avait été présenté à l'époque comme étant authentique, Bon, là, les personnes reconnaissent qu'il n'y a pas d'éléments pour le confirmer, que ça pourrait être le travail d'acteur. Mais en tout cas, eux disent, mes tripes me disent que l'enregistrement est vrai. Pour eux, ils ont senti en l'écoutant pour la première fois, peut-être qu'ils étaient impressionnables aussi, mais que c'était sûrement un enregistrement authentique qui avait été justement utilisé pour montrer ce qu'il ne fallait pas faire. Alors, qu'est-ce que tu en penses de cette hypothèse, toi ?
De l'enregistrement authentique ?
Ouais.
Bah, ça peut faire partie de la pédagogie. Je veux dire, si le but c'est de choquer pour que les personnes retiennent bien, tu vas pas leur dire cet enregistrement est faux, mais ça peut arriver en vrai, tu vois. Le formateur a tout intérêt à dire que l'enregistrement est authentique, ou même lui pour la mauvaise blague, tu vois, pour faire peur aux...
Pour troller tes élèves.
Pour troller tes élèves, tu vois. Et il a peut-être dit, il a peut-être entendu que c'était un truc vrai, mais il n'empêche que, en effet, ça ressemble tellement à... Et une situation, en fait, c'est un peu stéréotypé, quoi. C'est un peu stéréotypé et t'as tout ce qu'il faut pas faire quand t'es opérateur du 911. Donc, ça semble logique que ça ait été passé en formation. Et logique que, en termes pédagogiques, même si c'est un petit peu violent quand même, de faire croire qu'à l'enregistrement réel, ou en tout cas que, ouais, que ça a été fait passer pour ça.
Pour moi, le degré de mystère sur cette histoire, il reste assez élevé parce qu'on sort. C'est très difficile de savoir si l'enregistrement est authentique ou pas. Il pourrait l'être. Mais ce qui rajoute vraiment du mystère là-dessus, c'est ces témoignages-là sur Reddit. C'est parce que jusque-là, tu pourrais dire oui, donc en fait, c'est un fake, c'est rigolo, c'est genre peut-être de l'ordre de la creepypasta. Mais c'est ces commentaires-là qui viennent l'ancrer dans la réalité en disant oui, moi je l'ai entendu pendant ma formation. Qui l'ancre vraiment dans le réel. Et ça, c'est un petit peu plus troublant pour moi. Mais encore une fois, ce sont des utilisateurs de Reddit anonymes.
Oui.
N'importe qui pourrait l'avoir écrit. Peut-être quelqu'un qui veut donner plus de crédit à ce début de creepypasta.
Est-ce que tu veux dire que c'est le formateur qui revient dans les années 80, qui formait
les gens,
qui revient sur Reddit pour dire « si, c'est vrai ».
C'est parfaitement authentique. J'étais l'opératrice. Donc voilà, je pense que c'est compliqué également de classer l'affaire sur ça parce que le mystère n'est pas totalement résolu. On ne peut pas affirmer aujourd'hui, en tout cas avec certitude, que c'est vrai ou non. Peut-être un jour il y aura un documentaire ou je sais pas, un truc où on l'entendra. Mais je pense pour moi qu'on ne saura jamais. Et à l'hypothèse de ce fameux exemple pour les opérateurs du 911, que l'enregistrement soit authentique ou non, moi ça me plaît plutôt. J'aurais pas du tout de mal à imaginer que ça soit vrai. Que ce soit un exercice.
Ouais, je suis assez d'accord.
Cette session de travail du Bureau des Mystères est désormais terminée. Merci à vous de l'avoir écouté.
Le Bureau des Mystères est un podcast Rivière à Ferraille. Et à ce titre, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Le compte Twitter, c'est @BDMlePodcast. Sur notre page Facebook, Charles et Mathias. Vous pouvez aussi carrément aller sur le site rivièreaferraille.com et aller nous écouter.
Où vous retrouverez toutes nos sources de nos épisodes.
Oui, notamment, c'est vrai qu'on ne le dit pas assez, mais vous retrouverez les sources qu'on utilise. Vous pouvez aussi nous laisser des reviews 5 étoiles si vous en avez envie sur Apple Podcast, nous écouter tout simplement sur SoundCloud et même sur Deezer.
Et même sur Deezer, effectivement. Avant de vous quitter, nous avons une annonce à vous faire, enfin, plutôt Charles a une annonce à vous faire.
J'ai une petite annonce à vous faire, puisque je ne vais pas participer au prochain Bureau des Mystères. Pendant quelques temps, j'ai été appelé pour le travail. Je vais aller dans la jungle amazonienne pour les pour les prochains mois. J'aurai pas internet. J'ai été appelé par le travail. Je suis aventurier en fait, en vrai.
Bien sûr.
On m'a demandé de descendre dans le trou le plus profond du monde. C'est déjà entendu parler. Et du coup, je ne pourrai pas être là pour les prochains numéros du Bureau des Mystères. Mais le Bureau des Mystères ne s'arrête pas pour autant.
Exactement, si Charles ne sera pas là pour obligation professionnelle, moi je continue à être avec vous dans le Bureau des Mystères et je ne serai pas seul. Je vais avoir à tour de rôle différents co-animateurs ou co-animatrices en guest, certains que vous connaissez déjà d'ailleurs, on ne vous en dit pas trop pour le moment, mais il n'est pas impossible qu'une certaine Mimi avec qui nous avons déjà travaillé par le passé apparaisse dans l'émission par exemple.
Et du coup, on vous dit à la prochaine.
Enfin, moi je dis à la prochaine.
Ouais, moi je vous dis à bientôt.
À bientôt. Ne fais pas ça comme si tu partais pour ne jamais revenir, si tu partais à la guerre sur ton cheval.
Sur ton cheval. Sur ma trottinette.
J'imagine un truc très 17e. Alors moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau numéro. Et en attendant, si vous entendez des bruits étranges dans le ciel, vérifiez que vous n'avez pas juste des acouphènes.